Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la radio lycéenne Beaumont News et sur Plume FM. Moi, c'est Nils. Je suis aujourd'hui au festival Beaumonde sur le forum des associations de la cité scolaire Beaumont. Cette année, le festival s'intéresse à la question de l'eau. En mars 2023, la sixième limite planétaire a été franchie, celle du cycle d'eau douce. C'est-à-dire que les conditions pour l'humanité de se développer et de prospérer sont grandement remises en cause. Plus concrètement, vous vous souvenez tous des restrictions d'eau de l'année dernière du fait de la sécheresse. Ou plus récemment, des coupures d'eau à Mayotte ces dernières semaines. Je suis accompagné de Lison, Manon, Mickaël et Fanette. Lison, tu nous parleras d'une date importante pour l'environnement dans ta chronique, ça s'est passé un. Manon, tu t'es rendu au concours d'éloquence pour les lycéens qui a pour thématique cette année, c'est la goutte d'eau. Mickaël, tu as interviewé les membres de l'association Galeco. Nous essaierons donc de comprendre à quoi servent les monnaies locales, notamment dans le pays de Redon. Fanette, avec toi, ce sera la partie témoignage. Est-ce que c'est simple d'être végétarien quand on est jeune aujourd'hui? C'est parfait, c'est génial, nous sommes nombreux et nous allons pouvoir vous parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On écoute maintenant Lison avec Ça s'est passé un.
Bonjour, alors, comme Nils vient de vous le dire, moi je vais vous parler du 22 mars. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Eh bien, le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Elle a été créée par l'ONU en 1992 et mise en place pour sensibiliser la population sur l'économie de l'eau et sa gestion responsable et durable. Elle soutient aujourd'hui l'objectif de développement durable numéro 6. Cet objectif va permettre à tous un accès à une eau potable et un service d'assainissement hygiénique d'ici 2030. Et oui, aujourd'hui, en 2023, si on regarde les chiffres, ils disent que un quart de la population mondiale n'a pas accès à de l'eau potable. Environ 1000 enfants meurent chaque jour à cause d'une ressource insalubre en eau. En Mayotte, l'eau est coupée 2 jours sur 3, un calvaire pour les habitants français. 1 litre sur 5 est perdu avec les fuites dans le réseau français. Autrement dit, ce n'est pas gagné. Les Nations Unies ont même déclaré que le droit à l'eau potable est un assainissement et un droit de l'homme essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. C'est pourquoi le gouvernement a besoin de tout le monde pour réussir à atteindre l'objectif fixé. Il va devoir agir 4 fois plus vite pour l'atteindre. En effet, les gouvernements n'ont pas vraiment le choix. Des millions de personnes pourraient être déplacées à cause de pénuries d'eau. Ainsi, l'ONU déclare qu'environ 2/3 de la population mondiale pourrait manquer d'eau d'ici 2050. C'est pourquoi il est important que des solutions collectives soient envisagées. L'eau nous concerne tous. Chaque personne, famille ou école peut faire la différence en changeant sa façon d'utiliser, de consommer et de gérer l'eau au quotidien. Vous avez peut-être vu dans les gares et les trains de la campagne d'affiches organisée par TER Bretagne sur les éco-gestes. On y voit des bottes bretonnes sur un sol craquelé et il y est indiqué « En Bretagne, l'eau devient rare ». Les économies que nous pouvons réaliser, nous, les citoyens, sont multiples. Nous pouvons prendre une douche plutôt qu'un bain. Nous pouvons remplacer la chasse d'eau de nos toilettes par une plus petite, consommant moins d'eau, ou encore remplacer nos toilettes classiques par des toilettes sèches. Nous pouvons aussi récupérer l'eau de pluie ou l'eau froide non utilisée pour arroser nos jardins. Enfin, je pense que nous devons le faire car nos multiples actions peuvent compter à grande échelle. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission de Catherine Potier sur France Info de 2022. Vous allez entendre Jean-Francis Richeux, le vice-président de l'agglomération de Saint-Malo, chargé de l'environnement et du développement durable.
Que ça marche dans les deux sens, et aussi ça va être le partage de l'eau. C'est-à-dire, vous avez parlé du monde agricole, on peut parler de l'agroalimentaire, on peut parler des consommateurs, on peut parler des touristes. Et bien ça, c'est un partage de l'eau. Comment on fait? Il va falloir que les gens prennent conscience, surtout les jeunes, que l'eau est rare et qu'il nous faut la préserver en quantité.
Il faut agir, nous, jeunes citoyens. Participons avec nos deux mains. Chaque geste compte, et ce, dès maintenant. Merci.
Merci beaucoup, Lison. On retrouve maintenant Manon, qui s'est rendue au concours d'éloquence de Beaumont. À toi, Manon.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis à la 6e édition du concours d'éloquence à Beaumonde sur le thème de la goutte d'eau. Je suis avec deux professeurs qui organisent ce concours depuis déjà 6 ans maintenant. Madame Gessa et Madame Pinhaleu, qui sont deux professeurs au lycée et au collège. Madame Gessa, pourquoi vous est venue cette idée d'organiser le concours au lycée et à Beaumonde?
Eh bien, le concours d'éloquence est né en même temps que la première édition de l'éco-festival et on s'était dit que c'était bien de donner la parole aux élèves, qu'ils puissent s'exprimer sur cette thématique transversale et qui concerne tout le monde dans sa vie de tous les jours et qui est une préoccupation au centre de la société actuellement. Et c'est venu aussi en même temps que tout ce qui était l'éloquence, le concours d'éloquence a pris un petit peu d'ampleur, était un petit peu à la mode il y a déjà quelques années. Ça s'est un petit peu vérifié aussi avec la volonté de réformer le bac et de proposer un grand oral. On s'est dit que voilà, cumuler ça, ça pouvait donner la possibilité aux élèves d'exprimer leurs idées, de passer un message et aussi de s'entraîner à l'oral en vue de l'épreuve du grand oral du bac.
Très bien. Et Madame Poinleu, du coup, pourquoi est-ce que vous permettez aux jeunes de s'exprimer à ce concours ? À quoi ça sert ? Pourquoi vous les poussez à s'exprimer ?
Parce qu'il est important de leur donner la parole. Ils ont des tas de choses à transmettre et c'est un format qui leur permet de le faire librement.
Et vous, Madame Gestin, qu'est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce sujet ?
Eh bien oui, souvent les élèves ont l'occasion de s'exprimer au travers des copies qu'ils rendent, des devoirs qu'ils rendent, mais en fait on leur laisse jamais une parole complètement libre et la possibilité de se proposer de le faire. Souvent c'est quelque chose qui leur est imposé dans le cadre scolaire et là du coup c'est vraiment l'opportunité pour chacun de venir s'ouvrir, de s'exprimer à cœur ouvert sur une thématique choisie, toujours un peu proposée, suggérée, disons, mais assez ouverte pour que chacun puisse librement exprimer ses idées, ses convictions, ses envies, ses souhaits pour l'avenir. Et c'est une bonne chose que les jeunes s'expriment sur des thématiques de développement durable, puisque c'est aussi eux qui sont le futur de la société et qui vont rendre possible des choses.
Ainsi, d'après vous, la parole des jeunes est vraiment très importante dans ce genre de concours et dans la vie au lycée en général ?
Oui, en particulier, oui, le fait que ce soit des jeunes. Et puis, on est super fiers qu'il y ait des collégiens chaque année qui se proposent, très peu. Mais quand même, on se dit que c'est une façon pour eux de montrer que la jeunesse est là, la jeunesse a des idées, est présente et a une opinion sur ces questions-là, qu'elle se sent concernée, qu'elle a envie de sensibiliser les autres. C'est plutôt un message d'espoir et plutôt prometteur pour l'avenir.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je suis maintenant avec trois participants du concours, donc Colline, Arthur et Julia, qui viennent de vivre cette expérience hors du commun. J'ai une question, Arthur. Est-ce que tu as déjà participé au concours ?
Ouais, j'ai déjà participé à l'édition dernière avec un beau score de 4e.
Très bien. Est-ce que, du coup, qu'est-ce qui te donne envie de participer au concours depuis déjà 2 ans maintenant ?
Bah, c'est vrai que bon, bah, c'est des lignes sur le CV assez faciles, donc c'est assez cool. Et puis bon, bah, ça apporte toujours quelque chose, c'est une expérience à vivre. Et puis j'ai toujours aimé le public, la foule, donc ça m'a attiré.
Et qu'est-ce que cette prestation aujourd'hui t'a apporté sur ce thème de la goutte d'eau ?
Ça m'a fait préparer un texte, ça m'a fait trouver des chiffres, ça m'a fait me rendre compte aussi de la situation qui est vraiment critique à Mayotte, que je sous-estimais très clairement. Et puis, moi ce sera sûrement ma dernière édition parce que j'ai normalement... je vais normalement avoir mon bac cette année, donc voilà.
D'accord, merci beaucoup à toi. Donc maintenant, je suis avec Julia et Colline, qui sont aujourd'hui à leur toute première édition. Les filles, qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie ?
Moi, je me suis dit qu'il fallait que je sorte un maximum de ma zone de confort, et je me suis dit que ce serait une super expérience pour mon futur et pour ma vie en général.
Ouais, je dirais la même chose. Je pense que c'est un moyen aussi de se dépasser, et après d'être fier de soi même si on ne gagne pas forcément, enfin, c'est pour l'expérience. Et je pense aussi que de voir les autres ce qu'ils ont fait et de se dire qu'on a travaillé sur le même sujet mais qu'on produit tous des choses différentes, je pense que c'est encore plus intéressant et c'est hyper enrichissant de voir que même certaines qui sont en 5e qui arrivent à faire des discours de malade, je pense que c'est moi je trouve plus que même c'est un honneur de pouvoir les voir justement.
Et du coup cette prestation, il y a eu quelque chose qui vous a donné vraiment envie, des amis ou des choses comme ça?
Moi, c'est simplement moi-même, mais après, mes amies, elles m'ont tout encouragée. Elles m'ont dit, là, tu peux plus faire marche arrière, là, tu fonces, t'y vas. Du coup, j'y suis allée.
Ouais, c'est pareil. Puis je pense qu'il y a des professeurs aussi qui nous ont encouragés à participer. Et du coup, je pense que ça nous a toutes les deux encore plus motivées que ce qu'on était déjà. Donc voilà.
Et merci beaucoup. J'espère que vous allez gagner quand même. Et voilà, c'est terminé pour ce direct du concours d'éloquence. À vous, les studios.
Eh bien, merci Manon. J'espère que si vous êtes au lycée Beaumont, cela vous donnera envie de participer l'année prochaine à la prochaine édition. Je vous propose maintenant une première pause musicale. Voici Greedy de Tate McRae. I said, are you serious? I try, but I can't figure out. I've been next to you. voilà de retour après cette pause musicale. Nous retrouvons maintenant Mickaël qui a été interviewé un membre de l'association Galeco. Peux-tu nous en dire plus, Mickaël ?
Bonjour à toi, Nils. Bonjour aux auditeurs. Oui, j'ai été interviewé ce matin, Madame Lourmière, membre de l'association Galeco. Alors, le Galeco, c'est une monnaie locale qui circule à Rennes, Fougères, mais aussi Redon et dans les alentours. Cette association fête ses 10 ans cette année. On écoute donc l'interview dès maintenant. Qu'est-ce qu'une monnaie locale ? Est-ce qu'il y en a beaucoup en France ?
Alors, une monnaie locale, déjà, c'est une monnaie locale, complémentaire et citoyenne. Alors, le but d'une monnaie, en général, c'est échanger. Hein. La fonction d'une monnaie, c'est donc pour échanger. Et avec le Galeco, qui est la monnaie locale du pays de Redon, et même d'Ille-et-Vilaine, d'ailleurs, et elle s'appelle le Galeco. Et avec le Galeco, on ne peut pas spéculer. Ça, c'est très important. Alors, la monnaie locale favorise les échanges de proximité à l'intérieur d'un réseau solidaire de citoyens et d'entreprises qui adhèrent au Galeco, en l'occurrence. Il y a en France un petit peu plus de 80 monnaies locales.
D'accord. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les objectifs de cette association ?
C'est permettre aux citoyens de s'approprier les enjeux de l'économie et de la finance. C'est relocaliser l'économie et dynamiser l'activité et l'emploi. C'est encourager les entreprises et les consommateurs à respecter certaines valeurs écologiques et sociales. C'est favoriser l'accès de tous à des produits de qualité et à une consommation responsable. C'est développer la solidarité locale. C'est créer du lien social autour d'un système d'échange marchand commun. Et c'est piloter démocratiquement le projet de l'association.
Donc concrètement, quelle est la plus-value d'une monnaie locale pour un commerçant et pour un consommateur aussi ?
Alors, la plus-value locale, je vais commencer par un commerçant. Il faut que le commerçant, il adhère. Hein. S'il adhère à cette association, le Galeco, eh bien, il y a une charte qui tourne autour de l'écologie, le respect de l'humain. Ça, du coup, ça crée un label. Pour le commerçant, il y a un label. Ça lui fait aussi de la pub, car il y a un annuaire des différents commerces. Il y en a environ 80 sur le pays de Redon. C'est un réseau solidaire, car les entreprises, pas toutes, mais se connaissent entre elles, et il y a du lien entre elles. Pour les consommateurs, alors c'est pareil, il faut qu'ils adhèrent, les consommateurs. Alors, quand le consommateur adhère et dépense son argent dans ces entreprises, eh bien, le consommateur soutient l'économie locale. Son argent reste sur le territoire. Et il y a le double effet, c'est que lorsque tu échanges des euros contre des galecos, eh bien, les galecos vont tourner sur le pays et les euros vont être placés dans une banque éthique qui est, en l'occurrence, le Crédit Coopératif. Et cette banque favorise aussi les entreprises éthiques et de l'économie sociale et solidaire. Et on peut dire que c'est une monnaie citoyenne. C'est-à-dire que c'est nous qui gérons cela.
Alors, vous parlez d'adhésion. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur comment vous faites pour que les consommateurs puissent adhérer à ce projet ?
Il y a un bureau de... Nous tenons un stand tous les 15 jours sur le marché de Redon. Et il y a d'autres endroits aussi où on peut adhérer. Par exemple, la librairie Libellune, ce n'est qu'un exemple. Et on peut aussi, ce sont des bureaux de change.
Alors, où peut-on échanger des galecos et où peut-on les dépenser dans le pays de Redon ?
Alors, comme je viens de dire, échanger, alors 1 euro égale 1 galéco ou 1 galéco égale 1 euro, on peut échanger donc tous les 15 jours sur le marché de Redon. La prochaine fois, c'est le 4 novembre. C'est un samedi. On peut aussi échanger dans, donc, à la librairie et certainement, je crois, au centre social. Et dépenser. Dépenser, il y a environ 80, un petit peu plus de 80 entreprises. Il y a un annuaire que l'on donne aux personnes qui adhèrent. L'adhésion est à prix libre, conseillé 10 euros. C'est une adhésion annuelle. Le Galéco, je complète, c'est aussi une association loi 1901, qui est donc gérée par les citoyens. Pour les dépenser, il y a de nombreux bars, restaurants, salons de thé. Il y a beaucoup aussi de magasins d'alimentation et aussi de la vente directe. Il y a aussi des entreprises de santé, bien-être, environnement. Il y a aussi la culture, les loisirs, l'artisanat. Je cite par exemple le cinéma Manivelle. Il y a aussi alors d'autres qui ne sont pas dans des cases, par exemple TBI, là où maintenance informatique et bureautique. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Il y a pas loin d'ici le Balabala dans la rue Saint-Michel, c'est un bar. La crêperie Laquenne.
Pensez-vous que la jeunesse puisse jouer un rôle dans le combat qui est cette économie assez spéciale ?
Alors oui, c'est sûr. Puisque la jeunesse, voilà, vous êtes les adultes de demain, enfin même les jeunes adultes. Donc comment faire pour jouer un rôle ? Eh bien, c'est adhérer à ce système. Alors, on n'a pas encore vraiment vu si, à partir de quel âge on pouvait adhérer. Et quand on adhère à ce système et qu'on paye en Galéco, du coup, on réfléchit à sa consommation. On ne va pas aller acheter, par exemple, sur Internet, Amazon ou... Donc, on va réfléchir à acheter plus local, plus respecté sur l'humain et la nature. Pour nous, hein, qui sommes militants sur le Galéco, eh bien, c'est un moyen de transition écologique, puisqu'on sait que c'est urgent.
Comment comptez-vous populariser le Galéco ?
Alors, on fait des fêtes, on fait des marchés, il y a des projections cinématographiques. Par exemple, si vous avez vu le film Demain de Mélanie Laurent qui parle de la transition, il va y avoir une pièce de théâtre sur la Monnaie le 30 novembre à Saint-Péreux. Quelque part, on a envie de vous dire, la jeunesse, eh bien, on vous renvoie la balle. Peut-être vous avez des idées et venons les uns vers les autres. Pour cette démarche, peut-être.
D'accord. Alors, comment imaginez-vous l'avenir de cette association ?
Alors, nous, on espère que cette association prospère. Nous sommes beaucoup de bénévoles et nous avons une salariée qui travaille là-dessus. Ça fait 10 ans que cette monnaie locale existe sur le département 35 et là, en l'occurrence, sur le pays de Redon, puisque nous y sommes. L'avenir du Galéco, on espère qu'il y ait de plus en plus de citoyens et nous démarchons également les collectivités territoriales. Par exemple, alors ça ne se passe pas chez nous, mais dans le Pays Basque, il y a une monnaie locale qui s'appelle le SCO. Et on peut payer dans ce pays, par exemple, la piscine, la médiathèque, des services comme ça. Pour nous, c'est une sorte de résilience du territoire pour aller vers cette fameuse transition qui est indispensable. Et il y a une monnaie numérique bretonne qui est en réflexion, en préparation.
D'accord. Eh bien, merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. Ça nous aide à comprendre l'importance de ce combat pour une monnaie locale en France. Et bonne journée à vous.
Moi aussi, et c'est avec beaucoup de plaisir.
Merci Mickaël, nous en savons plus sur cette association bien implantée à Redon. Je suis maintenant avec Fanette, tu es en classe de première au lycée général, tu es végétarienne, c'est un sujet d'actualité mais pas si simple quand on est jeune. Alors, tu es végétarienne depuis combien de temps ?
Alors, ça fait environ 3 ans et demi que j'ai décidé d'adopter un régime végétarien, c'était en avril 2020.
Ok, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est qu'être végétarien ?
Alors, si on fait bref, un végétarien, c'est une personne qui ne mange pas de chair animale, donc ni viande ni poisson. Après, il y a plusieurs régimes alimentaires différents, par exemple flexitarien. C'est une personne qui réduit sa consommation de viande et de poisson. Il y a aussi les végétaliens. Donc, c'est une personne qui ne mange pas d'aliments provenant de la production ou de l'exploitation animale. Donc, pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de produits laitiers, pas de miel. Être vegan, c'est donc une personne qui a une alimentation végétalienne, mais qui ne consomme pas de produits d'origine animale, donc les vêtements, le maquillage, les produits de soins. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le véganisme n'est pas seulement un régime alimentaire. C'est plus que ça, c'est un mode de vie.
Très bien, maintenant nous sommes mis au clair. Pour vous mettre dans le sujet, je vous propose d'écouter un extrait du compte Instagram Vic plus Green, qui nous donne son avis sur les végétariens et les véganes.
Aujourd'hui, je suis pas végane parce que c'est compliqué d'être végane. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où la consommation de viande, de produits laitiers, d'œufs, c'est habituel pour la plupart des gens. J'espère que ça changera avec le temps, comme ça a été le cas pour le végétarien. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, être végétarien, c'est beaucoup moins bizarre que ça l'était à une époque. J'espère qu'un jour, être végane, ce sera plus du tout bizarre non plus. Heureusement, les sociétés évoluent, les mentalités évoluent.
Pourquoi es-tu devenue végétarienne ?
Alors, je suis devenue végétarienne par rapport au bien-être animal. Le fait de tuer des animaux pour les manger, alors que ça n'est pas nécessaire ni obligatoire pour notre alimentation, me dérange. C'est horrible la manière dont les animaux sont traités dans les élevages, et particulièrement dans les élevages industriels, où le seul but est de produire en masse et où la santé des animaux a peu d'importance. Il existe un autre endroit où les animaux sont encore plus violemment maltraités, c'est évidemment les abattoirs. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais beaucoup de personnes ont déjà vu des vidéos tournées dans ces abattoirs. Ces vidéos sont vraiment choquantes et elles exposent des actions atroces infligées aux animaux, des coups d'une violence extrême. C'est l'association L214 qui est souvent à l'origine des vidéos publiées. Ça a pour objectif de faire reconnaître la sensibilité animale.
Et y a-t-il une autre raison pour que le bien-être animal qui te pousse à être végétarienne ?
Alors, oui. C'est bien de diminuer sa consommation de chair animale aussi pour une raison environnementale. Car si vous ne le savez pas encore, la production de viande a un réel impact sur la pollution et est très consommatrice d'eau. Par exemple, en 2021, l'élevage de bétail était responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Les bovins produisent en grande masse, une grande masse de CO2 et de méthane, qui est un gaz à effet de serre qui joue énormément sur le réchauffement climatique. Cette production a un impact écologique négatif, d'autant plus que la viande produite est souvent exportée, et cela se fait principalement par avion. Or, l'avion est l'un des moyens de transport le plus polluant, ce qui augmente encore une fois la production de CO2. L'objectif est de limiter l'émission de méthane par les bovins et de dédier plus de parcelles aux productions végétales, par exemple les céréales. Par rapport à la consommation d'eau, sachez que pour produire un steak, il faut 4500 litres d'eau. Sans oublier l'impact qu'a la production de viande sur la déforestation, car le soja est la principale cause de la déforestation en Amazonie. Et plus de 80% de cette production est destinée à nourrir les animaux d'élevage. Et le fait d'être végétarien, ça a aussi un aspect économique. Car oui, la viande et le poisson, ça coûte cher.
Bien, j'entends les arguments que tu nous exposes. Cependant, certains diront que c'est néfaste pour la santé des végétariens, car le risque de carence est plus élevé. Qu'en penses-tu ?
Alors, je vais commencer par vous donner des exemples concrets. On peut citer de nombreux sportifs à haut niveau qui sont végétariens, parfois même végétaliens. On a Lewis Hamilton, qui est pilote de course, Venus Williams, joueuse de tennis qui a gagné Wimbledon, Laurence Okolie, un boxeur professionnel au succès international. Après, il y a plein d'autres exemples qui ne sont pas cités. Or, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un choix bénéfique pour la santé d'adopter un régime alimentaire ne contenant pas de chair animale, à condition de manger varié et équilibré. Les carences sont possibles pour les végétariens, tout comme pour des personnes non végétariennes. Il y a la possibilité de prendre de la vitamine B12 qui contribue à la construction de globules rouges. Normalement, cette vitamine est présente dans la viande, mais depuis quelques temps, dans les élevages, ils sont obligés de donner ces gélules aux animaux qui ne produisent pas assez de fer par eux-mêmes. C'est aussi un choix diététique parce que quand on mange de la viande, on mange plus de gras et la charcuterie peut être cancérigène. D'après une étude américaine, si une personne augmente sa consommation de viande rouge, il y a presque 50% de risque de diabète en plus et 10% de possibilité en plus d'avoir une mortalité prématurée. Tous ces exemples prouvent bien qu'être végétarien n'a pas un impact négatif sur la santé. Et les athlètes sont des personnes qui doivent faire attention à ce qu'ils mangent, avoir une alimentation saine. Certains vont jusqu'à dire que leurs performances sont meilleures après être devenus végétariens.
Est-ce que tous les jours, c'est facile, selon toi, dans ta vie au quotidien, d'être végétarienne, au lycée par exemple ?
Alors, ma famille a très bien accepté ça. Chez moi, aucun souci au niveau des repas. Après, c'est autre chose quand il faut aller au restaurant. Il arrive parfois que sur la carte, il n'y ait pas de menu végé. Et ça, c'est un peu le moment gênant où tu as l'impression de déranger tout le monde, surtout s'il faut demander au serveur si c'est possible de faire un plat spécial. J'avoue que je ne suis pas toujours super à l'aise, alors que ça devrait être normal. Et au self du lycée, parfois, c'est un peu la galère. Pour certains, la vision et l'odeur de la viande, ça peut répugner. Sinon, la phrase que j'ai dû le plus prononcer dans ce lieu, c'est « Est-ce que c'est végétarien ?» Et oui, il y a deux réponses probables. Alors, quand c'est oui, c'est rétorqué d'une façon où on pourrait croire que c'est logique. Et quand c'est non, le reste du temps, on se prend des regards qui font regretter d'avoir posé la question. Évidemment, il y a des exceptions. Mais le moment le moins agréable, c'est quand je découvre de mauvaises surprises dans mon assiette. Au passage, pour les élus du CVL, n'hésitez pas à en parler. Mais ce n'est pas ces petits tracas qui vont me faire changer d'avis. Je suis végétarienne et pour de bonnes raisons.
Et justement, quelles sont pour toi les alternatives possibles pour diminuer notre consommation de viande ou plus généralement de chair animale ?
Pour débuter, en 2019, il y a eu un mouvement qui a été lancé qui s'appelle Lundi Vert. Le but est d'encourager à manger moins de viande et de poisson le lundi. Le plus important, ce n'est pas que cela soit le lundi, mais seulement qu'un jour par semaine, on réduise notre empreinte carbone. Pour remplacer la viande, il y a des alternatives comme les œufs et les produits laitiers pour les végétariens. Il y a aussi les légumineuses qui donnent des protéines, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges. Ou encore deux aliments très protéinés, le tofu, environ 15 g pour 100 g, et le seitan, 28 g de protéines pour 100 g. C'est plus que le poulet. Et le plus important, c'est de garder une alimentation variée et équilibrée. Et je vais faire une petite promo pour le compte Instagram Vic plus Green, car il y a dessus un grand nombre de recettes végétariennes et véganes. En plus, elle informe sur un tas de petits gestes écolo. C'est vraiment sympa. J'espère que ce témoignage vous fera réfléchir sur votre consommation alimentaire et sur le nombre de bienfaits que cela peut avoir d'être végétarien, que cela soit personnel ou environnemental. Je vais m'arrêter là, même si je sais que je pourrais débattre des heures à propos de ce sujet qui fait parfois polémique.
Merci Fanette pour ce témoignage. Au revoir à tous, c'était les Beaumont News et Plume FM. Je vous propose de vous retrouver une prochaine fois. Bye bye.